Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Babel Pango Basimango pour les informations.
Un 20 ans de prison et radiation d'armée. Le verdict de la cour militaire de l'Ituri est tombé mercredi. Le capitaine Jean-Denis Bouba Amboa, jusque-là commandant du bataillon intérimaire de la force navale, est condamné pour s'être filmé avoir publié des images de lui et des éléments sous son commandement en pleine opération contre les rebelles en octobre dernier. Lancement hier par la première ministre à Kinshasa des travaux de construction d'un bâtiment administratif de 17 niveaux. Il abritera les services de coordination des grandes orientations de la politique nationale des infrastructures du pays. Prise dans l'aide de la RDC, la Belgique et la France préconisent la tenue d'un dialogue national inclusif. Pour elle, cela va compléter les efforts en cours à Doha, Washington et ceux de la médiation africaine. Dialogue entre Congolais a abordé cette problématique hier. Vous suivrez les avis des invités. Bonjour, nous parlons justice en Ituri. Un officier des forces armées de la République démocratique du Congo a été condamné à 20 ans de servitude pénale principale. Il s'agit du capitaine de corvette Jean-Denis Bouba Amboa, commandant du bataillon intérimaire de la force navale basé sur le littoral du lac Albert. Le verdict a été rendu mercredi dernier par la cour militaire de l'Ituri. L'officier était poursuivi pour violation des consignes militaires après s'être filmé avec d'autres éléments sous son commandement en pleine opération contre les rebelles de la Convention pour la Révolution populaire CRP de Thomas Lubanga au littoral de Nyambamba. Martial Kizabia Mungu nous explique.
Les faits remontent le 8 octobre 2025. Ce jour-là, le capitaine des corvettes Bouba Amboa, Jean-Denis, commandant des bataillons à l'intérim de la force navale basée à Kasseli, conduit une unité de combat à bord des hors-bord en direction du littoral de Nyambamba. Objectif, affronter les miliciens de l'accès RP de Thomas Lubanga. Au cours de cette opération, l'officier se filme à l'aide de son téléphone avant de publier la vidéo sur les réseaux sociaux. Pour les ministères publics, cet acte constitue une violation délibérée des consignes militaires en période de guerre. Après avoir entendu toutes les parties au procès, la cour militaire de l'Ituri a reconnu les capitaines des corvettes Jean-Denis coupable des faits mis à sa charge. La cour a également prononcé la radiation de cet officier des rats des FARDC, précisant que cette décision revêt un caractère pédagogique à l'intention d'autres militaires. La défense a annoncé avoir interjeté appel contre cette condamnation. Bounia Martial Kizabia Bongo, Radio Okapi.
Nous restons en Ituri. 16 civils dont un enfant enlevé la nuit de mardi à mercredi par des miliciens de la Codeco à Djoupa Péché en territoire de Mahagi ont été libérés après 24 heures de captivité. L'information a été confirmée hier par le chef de la chefferie des Pandourou. Les autorités locales appellent les communautés et les groupes armés à privilégier le dialogue et le voie pacifique pour le règlement des différends, cela afin d'éviter de nouvelles violences contre des civils. Le point avec vous, Jean-Claude Loki.
Parmi les personnes enlevées figurent les chefs du village de Djupakbeche qui, à l'instar des autres victimes, auraient subi des actes de torture selon des sources locales. Son état de santé étant jugé préoccupant, cette autorité coutumière est actuellement admise dans une structure sanitaire pour recevoir des soins appropriés. Selon les chefs de la chefferie de Pandourou, les assaillants affirmaient être à la recherche d'armes qu'ils soupçonnaient être cachées à la résidence du chef du village. Une fouille a été menée mais aucune arme n'a été retrouvée. Avant de se retirer, les miliciens ont emporté plusieurs biens appartenant à la population, notamment de l'argent, des chèvres et de la volaille, aggravant davantage la situation humanitaire déjà précaire dans cette zone. De son côté, le chef de l'entité, Arnold Lokwa, déplore ces actes et appelle les responsables de la Codeco au respect des engagements pris en faveur du règlement pacifique des conflits. Pour sa part, le responsable territorial de la société civile Force Vive plaide pour le renforcement des dispositifs sécuritaires afin de mieux protéger les civils et prévenir de nouvelles exactions. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Okapi.
Dans les territoires de Béni au Nord Kivu, près de 500 ménages déplacés ont besoin d'assistance dans plusieurs villages de la chefferie de Bachou. Il s'agit majoritairement des femmes et des enfants. Ils fuient depuis une semaine les attaques répétées des rebelles ADF dans certaines localités du territoire de Lubero. Le président de la société civile de Bachou lance un appel à la solidarité et à l'aide humanitaire. Maombi Kaongia fait le point au téléphone de Martial Papimukeba.
dans différents villages, dont les villages Burundo, Kibira, Kiondo Kitumbu, Kisesandondi et l'agglomération de Butuhi, ça enregistre un afflux de déplacés internes venant du groupement Mouenye dans la chefferie de Bassoa à territoire de Lubero. Le groupement Mouenye qui enregistre actuellement des atrocités suite au massacre y enregistré par les ADF Nalu. Les déplacés internes sont signalés dans des familles d'accueil. Pour le moment, on enregistre près de 500 ménages. Les messages que nous demandons à la population d'accueillir nos frères et sœurs avec une grande hospitalité et aussi de pouvoir enregistrer tous ceux-là qui sont dans des familles d'accueil auprès des chefs d'entité. Également, nous rappelons aux personnes de bonne volonté, aux humanitaires, de pouvoir pour les apporter de l'aide nécessaire et surtout qu'ils ont fui leur entité sans pour autant emporter quoi que ce soit.
Maombi Kaongia, président de la société civile de Bachou dans le territoire de Béni. Les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent dans un communiqué que les obsèques générales de brigade Daniel Mwakumbuluku auront lieu aujourd'hui et vendredi à Kinshasa. L'inhumation est prévue au cimetière de repos du soldat à Lancele. Cet officier supérieur de FRDC est décédé le 12 septembre dernier dans la zone opérationnelle d'Ouvira. Le gouvernement souminois poursuit la modernisation des infrastructures administratives du pays. Il a lancé hier jeudi à Kinshasa les travaux de construction du bâtiment destiné à abriter le centre d'infrastructures dénommé et centre Félix Tshisekedi de Tshilombo. Cet édifice de 17 niveaux accueillera les services de coordination et de pilotage des grandes orientations de la politique nationale des infrastructures en République démocratique du Congo. Cet ouvrage est le fruit d'un partenariat entre l'État congolais, l'Agence congolaise des grands travaux ACGT et la Société congolaise de péage Sopeco. Dongala nous en dit plus.
Cet immeuble, qui abritera les sièges administratifs de la CGT, comprendra des niveaux de parking en sous-sol, un rez-de-chaussée ainsi que 17 niveaux. Il offrira plus de 300 bureaux modernes, des salles de réunion ainsi qu'un environnement de travail capable d'accueillir plus de 1200 agents. Le directeur général de la Sopeco assure qu'il livrera dans les délais un ouvrage répondant aux standards modernes.
La société Sopeco réaffirme son engagement à livrer un ouvrage exemplaire répondant aux standards techniques les plus élevés.
Le général de la CGT s'est réjoui que cette bâtisse, une fois achevée, permettra de regrouper les cabinets du ministre des Infrastructures ainsi que d'autres services du secteur. Nikonza Unzaou.
Le choix de regrouper au sein d'un même immeuble les cabinets du ministre des Infrastructures et Travaux publics ainsi que l'ensemble des services stratégiques du secteur répond à des objectifs clairs de gouvernance publique, à savoir l'accélération du circuit des décisions et la consolidation de recevabilité et de la transparence de l'action publique.
Pour sa part, le ministre des Infrastructures fait savoir que la construction de cet immeuble témoigne, une fois de plus, la volonté et l'engagement du gouvernement de placer le secteur des infrastructures au centre de l'action publique. Ce projet, conçu pour une durée de 24 mois, est estimé à au moins 25 millions de dollars américains.
Parlons à présent de cette cacophonie depuis plusieurs semaines à la tête du gouvernement provincial du Haut-Lomami. D'après des sources locales, il est difficile à présent de savoir qui gère la province actuellement entre le gouverneur, le vice-gouverneur et le ministre des Infrastructures qui assure l'intérim du gouverneur. Le ministre des Infrastructures refuse de céder la gestion de la province au vice-gouverneur qui est retourné depuis peu dans la province. Il faut préciser que le gouverneur qui a été invité à Kinshasa pour consultation s'est décidé de laisser l'intérim au ministre provincial des Infrastructures au moment où le vice-gouverneur était aussi présent à Kamina. Éclairage avec vous pour la Munanga.
Le gouverneur du Haut-Lomami, Marmo Banzamouloumé, séjourne à Kinshasa depuis plusieurs semaines pour consultation auprès de sa hiérarchie. Cependant, des sources locales à Kamina, chef lieu du Haut-Lomami, renseignent que le gouverneur serait en train de prendre certaines décisions sur la province. Pour sa part, le ministre des Infrastructures à qui le gouverneur a laissé l'intérim de la province ne veut pas laisser la gestion au vice-gouverneur qui est retourné depuis peu dans la province, indiquent les mêmes sources. Pour le cadre de concertation de la société civile du Haut-Lomami, cette crise a des multiples conséquences négatives sur la population. De son côté, l'Union sacrée décrit cette confusion et en appelle à l'implication du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Fiston Nyembo, secrétaire exécutif de l'Union sacrée du Haut-Lomami.
Depuis que le gouvernement est rentré ici, le ministre Pressayant n'a jamais cédé. Il est en train de faire un bras de fer avec le vice-gouverneur de la province. De l'autre côté, c'est lui-même le gouverneur Banzamoul Memarmo qui ordonne la paix à l'issue du vice-gouverneur qui a en train de de gérer actuellement d'abord la province en attendant. Nous venons encore de constater de l'autre part, c'est le sceau du gouvernorat, bloqué par les membres du cabinet du gouverneur Banzamulume Marmo. Nous demanderons à ce que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, puisse prendre toutes les dispositions du douane pour décourager ces pareils actes.
Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
À Kinshasa, la Fondation Panier de la Femme plaide pour la permanence de l'électricité dans la capitale et particulièrement dans la commune de Kintambo. Un mémorandum a été déposé hier à la maison communale auprès de Daniel Kabambou, secrétaire communal et représentant du bourgmestre. Les femmes de cette structure demandent au bourgmestre de porter leur voix auprès des autorités de la Société Nationale d'Électricité, car la desserte est très irrégulière et cela renforce l'insécurité. Love Ingele, présidente de la Fondation Panier de la Femme, explique leur démarche au micro de John Chiwobwa.
Chilid m'a aidé à voir les problèmes qui rongent notre communauté et faire un plaidoyer. Raison pour laquelle nous sommes venus voir le bourgmestre qui est toujours à l'écoute de la population et nous allons trouver une solution. Ce qui nous a motivés à venir voir le bourgmestre, lui étant le premier représentant de notre commune, la SNEL, la Régie des Eaux et d'autres établissements publics viennent après. Voilà pourquoi nous avons jugé bon de venir auprès de lui et lui de son côté portera notre voix auprès des autorités de la SNEL.
La nouvelle société civile du territoire de Luisa dans le Kasaï central alerte sur les dangers que représentent les hippopotames dans cette partie de la province. Les faits sont rapportés au village de Moinambulu dans le groupement de Ndombi, secteur de Luita. Selon cette structure citoyenne, ces animaux quittent régulièrement leur habitat pour pénétrer dans la communauté, sémant la panique et la désolation. Des pertes en vies humaines ont déjà été enregistrées. André Katendengalamoudoumé.
Selon la nouvelle société civile du territoire de Luisa, 3 hippopotames ont été signalés dans le village de Moinambulu où leur présence a semé la psychose au sein de la population. Le président territorial de cette structure, Paulin Kongolonsaki, indique que ces animaux constituent un réel danger pour les habitants de Moinambulu. Il précise qu'une femme d'une trentaine d'années était dévorée le lundi dernier par un hippopotame.
On a constaté mort d'homme, une dame âgée de 35 a été récupéré par l'hippopotame et l'hippopotame l'avait tué, l'avait décomposé. Et jusqu'à présent, on constate encore la présence des hippopotames.
Cette situation a provoqué une vive panique au sein de la population locale, désormais plongée dans la peur. Face à cette menace, Paulin Kongolonsaki appelle les services de l'État en charge de la protection et de la gestion de la faune à intervenir en urgence afin d'éviter une aggravation de la situation. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Kapi.
Actualité internationale.
La faim menace à nouveau le nord-est du Nigeria. Le programme alimentaire mondial a averti hier que plus d'un million de personnes pourraient perdre l'accès à l'aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence dans les semaines à venir faute de financement. L'agence indique qu'en février, son assistance sera réduite à seulement 72 000 personnes contre 1,3 million aidés l'an dernier pendant la saison de soudure. Malgré les contributions généreuses, nos ressources sont désormais épuisées, a déclaré David Stevenson, directeur national du PAM au Nigeria. La crise alimentaire s'est encore aggravée avec la réduction plutôt massive de l'aide américaine, notamment la suppression du fonds de l'USAID qui a affecté plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et centrale.
L'invité.
Crise dans l'Est de la RDC. La Belgique et la France préconisent la tenue d'un dialogue national inclusif en République démocratique du Congo. Si la Belgique a réaffirmé son engagement pour une solution pacifique dans l'Est de la RDC en encourageant un dialogue national inclusif, la France de son côté, en plus de soutenir cette initiative, la considère comme complémentaire au processus en cours à Doha, à Washington et à la médiation africaine. Dialogue en congolais de ce jeudi est revenu sur cette problématique. Chaque intervenant à cette émission a exprimé son opinion à ce propos. On les écoute au micro de Jean.
Christian Mando, député national, élu de Moba dans la province du Tanganyika, cadre d'Ensemble pour la République, parti de l'opposition et président du groupe parlementaire Ensemble à l'Assemblée nationale. Quelle analyse faire du soutien de la Belgique et de la France à l'idée de la tenue d'un dialogue national inclusif?
Ce dialogue aura pour objectif essentiel, 1, de rassembler tous les pays du pays autour d'une table pour aborder les causes profondes de cette crise multidimensionnelle que traverse notre pays. Les guerres, les tueries, parce qu'il n'y a pas que la guerre, il y a les tueries, ADF et autres, il y a les problèmes de sécurité sur l'ensemble du territoire. Vous avez les Mobondo, vous avez les pillages qui s'organisent dans les maisons des gens, partout en République démocratique du Congo. Il y a la déliquescence de l'État. Il y a également le respect de la démocratie, le respect de liberté, les questions de gouvernance, les questions de corruption. Donc, comment refaire la cohésion nationale et trouver ensemble des solutions consensuelles pour bâtir un pays fort et uni? Parce que n'oublions pas que les défaites que subit notre pays au niveau de la guerre est due à la faiblesse de l'État. Comment renforcer notre État pour ne plus avoir à nous plaindre? C'est une solution qu'on doit trouver ensemble.
Passim Bayo, au cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation, vous êtes à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Quelle analyse faites-vous du soutien de la Belgique et de la France à l'idée de la tenue d'un dialogue national inclusif?
Vous allez vous rendre compte, au nom de la simple logique intellectuelle, les propos du ministre belge des Affaires étrangères, tout comme ceux de la France, sont superfétatoires. Le président de la République a déjà accepté l'idée du dialogue plus de 6 fois dans ses discours.
Mais il l'a dit pas avec n'importe qui.
J'ai dit que sur le plan du besoin du dialogue, nul n'est contre le dialogue. Mais la question la plus importante à se poser, c'est le pourquoi et le comment du dialogue. Le président de la République a toutes ses raisons de poser des conditionnalités pour ce dialogue tant souhaité par nos amis de l'opposition en l'occurrence. Mais comment voulez-vous aller à un dialogue avec des gens, par exemple, je prends par exemple le camp de Kabila, ils se veulent eux-mêmes être dans le mouvement politico-militaire que j'appelle AFC, M23, et j'ajoute également le Rwanda, et en même temps faire l'opposition civile démocratique au pays. C'est quand même rédhibitoire. Comment voulez-vous aller à un dialogue où, lorsque vous avez affaire à certains opposants, au clair de la lune, tout comme de manière camouflée, ont déjà fait allégeance à Kigali? Ça me rappelle une phrase de Kiba Samaliba au Zaïre qui dit que ceux qui ont mangé à la table du diable. Dialogue entre Kamwando, le Lama Fokaboum, Martin Fayou, etc., etc. C'est un dialogue qui doit avoir lieu. Pas mélanger les choux et chèvres en prenant ceux qui ont versé le sang du peuple, en les amenant dans une question aussi civile et démocratique comme celle-là.
Jolino Maloukissa, directeur du pilier gouvernance à l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence à Ebouteli. Est-ce que le dialogue paraît en ce moment comme étant une panacée pour qu'on trouve réellement une solution aux problèmes qui minent la RDC, notamment dans sa partie est?
Je ne dirais pas que le dialogue peut constituer aujourd'hui une panacée, mais c'est une voie importante, peut-être une voie royale aussi pour essayer de trouver des solutions aux problèmes majeurs qui créent l'instabilité au Congo. On a besoin de ces dialogues pour renforcer la cohésion. C'est important parce que regardez bien, tous les pays voisins et principalement le Rwanda, quand il faut attaquer le Congo, on se sert des Congolais. Et généralement, c'est des Congolais mécontents qui rejoignent la rébellion instrumentalisée par le Rwanda. Donc, de ce point de vue, le dialogue est capital. Et quand nous voyons aujourd'hui des acteurs majeurs, pas négligeables quand même, de la scène politique congolaise qui sont à l'extérieur, c'est parce qu'il y a des soucis sur le plan interne. Donc, dans tous les cas, comme vous l'aviez si bien dit, le président de la République lui-même parle de ces dialogues. Mais quand on dit qu'il faut dialoguer tout simplement avec ceux qui ne sont pas derrière le Rwanda, alors que du côté Doha, du côté Washington, on a fait avancer les pas. On a quand même discuté avec les agresseurs, on a discuté avec ceux qui tuent, qui massacrent les Congolais jour et nuit à l'est du pays. Si on peut assimiler les autres à ces camps, alors à ce moment-là, le dialogue sera toujours possible. On sent aujourd'hui une opposition en perte de vitesse, hein, et une société civile qui est dans la même impasse parce que en 2015, 16, 17, c'est une société civile, une opposition qui était assez forte pour pousser Kabila et son régime à pouvoir négocier. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on est dans une situation où la crise est très sévère et il est vraiment capital qu'il y ait des avancées significatives pour aller à ces dialogues. Mais aussi, il faut comprendre une chose. Pourquoi aujourd'hui la France, la Belgique veulent pousser à ces dialogues? Mais c'est parce qu'aussi, sur le plan international, il manque de cohésion. La démarche de Washington, de Doha, a exclu l'Union européenne, a exclu la France, a exclu la Belgique.
Les invités de dialogue entre Congolais étaient interrogés ici par Jean Ngandou. Avant de boucler ce journal, je vous rappelle les titres. 20 ans de prison et radiation de l'armée. Le verdict de la cour militaire de l'Ituri est tombé mercredi. Le capitaine Jean-Denis Bouba Amboa, jusque-là commandant du bataillon intérimaire de la force navale, est condamné pour s'être filmé et avoir publié des images de lui et des éléments sous son commandement en pleine opération contre les rebelles en octobre dernier. Lancement hier par la première ministre à Kinshasa des travaux de construction d'un bâtiment administratif le 17 8 niveaux. Il abritera les services de coordination des grandes orientations de la politique nationale des infrastructures du pays, notamment la CGT. Crise dans l'Est de la RDC, la Belgique et la France préconisent la tenue d'un dialogue national inclusif. Pour elle, cela va compléter les efforts en cours à Doha, Washington et ceux de la médiation africaine. Dialogue entre Congolais a abordé cette problématique hier. Vous avez suivi les avis des invités. Voilà qui clôture ce journal préparé par Richard Jean Kamunga, mis en onde par Alain Ngoy, non Irung. Merci à vous qui venez de nous suivre. Passez une excellente journée à l'écoute de Radio Okapi.